Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais aujourd'hui, c'est quasiment un anniversaire. À un jour près, en tout cas. Le dimanche 8 mars 2020, en effet, c'était notre dernier culte, dans les conditions que nous appelions alors normales. Enfin, on ne savait même pas qu'il y avait des conditions normales. On avait quand même demandé, je crois, de ne pas se saluer en se serrant la main et en se faisant la bise ce jour-là. Il me semble que... Voilà. Et en tout cas, c'était aussi notre dernier culte dans ce que nous qualifions aujourd'hui de présentiel. Et nous ne le savions pas encore. Nous avions eu notre AG le 1er mars, et une semaine après, donc dimanche 15, vous voyez le programme annoncé, samedi 15, au matin, j'avais un échange téléphonique avec l'invité lyonnais qui devait venir le lendemain, et qui était dans l'hésitation. Il m'a dit, si vous voulez vraiment que je vienne, je viens, et voilà, j'aurais la préférence de ne pas venir. Je lui ai dit, ben, dans ce cas-là, vous restez chez vous, c'est moi qui prendrai la place si on fait le culte. Voilà. Et l'après-midi, nous prenions la décision d'annuler le culte du lendemain. C'était aussi, je crois, le moment où les magasins commençaient à être pris d'assaut. Et le confinement a commencé le lundi 17 mars. Donc, 16 mars, il y en a qui suivent, merci. Basculement radical, en tout cas. Et donc, nous voilà un an plus tard. Joyeux anniversaire. Alors bien sûr, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses depuis, et chacun de nous les aura vécues, chacun à sa façon. Certains peut-être relativement facilement, je ne sais pas, d'autres plus douloureusement. Et puis bien sûr, cette histoire collective dans laquelle nous sommes engagés n'aura été qu'une des composantes de notre histoire, parce qu'il y a d'autres préoccupations peut-être pour un certain nombre d'entre nous qui nous auront parfois occupés et préoccupés bien davantage. Dans ce contexte, en tout cas collectif, où nous sommes encore dans l'épidémie, et puis individuel, je nous invite à nous mettre ensemble ce matin à l'écoute du psaume 57. D'abord des éléments de contexte. « Au maître de chant », cantique de David sur la mélodie de « Ne détruis pas » lorsqu'il s'enfuit, poursuivi par Saül, et se réfugia dans la caverne. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. » Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle le Dieu très haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couché au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés, en plein. cœur est tranquille. Oh mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je te chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te jouer, Seigneur, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Alors nous le voyons dans les premiers mots qui préparent le texte. Ce psaume nous renvoie en fait, mais sous un autre angle, au moment que j'essayais de commenter la semaine dernière, David dans la caverne. Et quand dans 1 Samuel 24, nous voyons Dieu agir, ici nous entrons dans son intériorité. Et dans ce qu'il exprime, dans cette intériorité, c'est notamment cette parole intérieure que je vous invite à garder particulièrement. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Et le nôtre. Pour se comprendre un minimum, quelques précisions. Le cœur en hébreu, peut-être à la différence de pour nous, ça ne renvoie pas spécifiquement aux sentiments. Ce n'est pas que les sentiments. C'est aussi les sentiments, mais ce n'est pas que ça, loin de là. Le cœur en hébreu, ça engage toute l'intériorité, tout ce qui nous, voilà, tout ce qui fait la volonté, le courage, le bon sens, la raison. En somme, c'est tout ce qui fait le cœur de notre personne. Donc ici, quand on lit ça, ça ne serait pas simplement un ressenti fugace, là, tout à coup, là je suis tranquille, là, ça y est, puis dans 5 minutes, peut-être ce sera complètement différent. Mais ça peut être des choses qui sont de l'ordre du courage, de la détermination, de l'ordre de la confiance et de l'ordre de la raison. Et ça, David le dit en disant, mon cœur est tranquille. Tranquille, alors il vaudrait peut-être mieux traduire par mon cœur est posé, mon cœur est affermi. C'est un mot qui parle de stabilité. C'est quelque chose qui n'est pas bancal, qui tient comme une maison, comme des montagnes. On dit que des montagnes sont affermies, comme le monde que Dieu assure. Donc mon cœur est tranquille, mon cœur est posé. Une intériorité qui se choisit de se fonder, qui se fonde, qui s'établit sur Dieu. Peut-être comme Jésus appellera dans le Nouveau Testament tous ceux à qui il s'adresse, tous les êtres humains, à établir, à poser, à construire leur maison sur le roc, dans Matthieu 7. Et je reviens à la question. Mon cœur est tranquille, posé, et le nôtre. Et notre intériorité, sur quoi nous sommes-nous posés? Est-ce que c'est posé ou est-ce que c'est bancal? Il est très important aussi, au moins pour moi, d'entendre que celui qui prononce ces paroles est très loin d'être exempt de soucis. Vous avez sans doute relevé les 3 moments qui marquent le psaume. D'abord, tout un moment de cri, d'appel, et pitié qui est redoublé, et pitié, je cherche en toi mon refuge qui est redoublé aussi. C'est la poésie hébraïque, hein, mais c'est aussi la façon dont on dit, et pitié, on le dit, on le répète. Ensuite, une espèce d'esquisse de la situation, entouré de lions, je suis humilié. Et puis à un moment donné, alors on ne sait pas pourquoi dans le psaume, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un retournement. Ils sont tombés dans la fosse qu'ils ont creusée. Et puis, oui, je suis surpris, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Et puis enfin, une expression de tranquillité, elle aussi redoublée, de chant à nouveau redoublé, d'appel à soi-même et d'appel à la joie, qui sont aussi redoublés avec un... Donc il y a des liens avec ce qui précède, avec un retour sur la première strophe, à travers cette mention de l'amour, de la fidélité, dans les deux cas, et puis aussi c'est en lien avec la deuxième strophe, avec cet appel qu'on retrouve dans les deux cas, ô Dieu, manifeste ta grandeur. Donc trois moments qu'on peut considérer comme consécutifs. D'abord, David est dans la détresse, ensuite il décrit ce qui se passe autour de lui, avec le début d'un retournement, et puis un moment où il débouche sur la joie d'une certaine délivrance. Donc finalement, ça va crescendo, si je puis dire. Et ce scénario que je viens de décrire, il est bien possible. En même temps, je nous invite à prendre acte de deux choses, trois choses. D'abord du fait que la confiance, elle apparaît dès la première strophe. J'appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Ensuite, que la prière instante, urgente de la deuxième strophe, ô Dieu, manifeste ta grandeur, ce sont aussi les derniers mots du psaume, donc il y a encore quelque chose qui est dehors de l'appel, avec la délivrance, malgré la délivrance. Je préfère dire avec la délivrance. Et puis que si les choses se présentent comme ça dans le psaume, si le psaume rassemble des paroles prononcées à des moments différents, eh bien ce psaume, quand même, nous le lisons, il se présente comme un tout. Et ce psaume, on le chante d'un seul tenant. Et c'est d'un seul tenant que le peuple de Dieu qui reçoit ce psaume donc est appelé à l'entendre et à se l'approprier. Et j'en reviens à cette parole. Mon cœur est tranquille, mon cœur est posé. Et au moment où je nous demande et le nôtre, il convient de prendre la mesure que ce un seul tenant, un tenant qui se dit dans le registre de la confiance, ne fait pas pour autant l'impasse sur l'épreuve et sur l'incertitude à l'égard du lendemain. Et le fait que ça se termine justement par encore un appel, l'illustre. Cette parole de Dieu qui nous rejoint aujourd'hui, c'est la prière d'un être humain et d'un être humain comme nous. Un être humain qui traverse une des périodes les plus instables, en fait, les plus dangereuses de sa vie, les plus incertaines de sa vie. Et je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui ont été traquées comme personne. Alors on l'a peut-être été quand on était tout enfant, quand nos camarades nous couraient après pour nous faire des choses désagréables. Mais là, c'est un adulte qui est traqué. Et c'est là qu'il fait entendre cette parole de confiance. Cet homme n'est pas quelqu'un de bien tranquille, qui bénéficierait de tout ce qui donne naturellement un sentiment de sécurité, qui aurait des ressources suffisantes, qui aurait la santé, qui aurait la sécurité, un entourage familial globalement stable, un entourage social rassurant. Cette parole, nous l'entendons de la bouche d'un fuyeur, d'un fugitif, et un fuyeur qui est réduit à se cacher dans une caverne pour échapper à la fureur d'un roi, des autorités. Saül, qui a tout mis en œuvre pour le supprimer. Je voudrais aussi nous faire sentir, nous redire que cette parole nous vient même de quelqu'un pour qui jusque-là tout allait bien, au fond. Souvenez-vous, il était parti de tellement bas, un jeune berger, le petit dernier là, tellement dernier d'ailleurs que quand le prophète était passé rendre visite aux membres de la famille, personne ne s'était formalisé, personne ne s'était même rendu compte qu'il n'était pas là, compte pas. Puis il avait fallu que le prophète qui était parti, lui, pour il est venu pour oindre le futur roi. Et puis il s'apprêtait à voir quelqu'un, et puis Dieu lui dit non, c'est pas celui-là. Donc à un moment donné, ils sont tous là, mais il n'est pas là, pourtant. Donc il avait fallu que le prophète insiste. C'est bizarre, vous êtes vraiment sûr que tout le monde est là, vraiment tout le monde? Tant et si bien qu'on s'est dit, mais oui, mais bien sûr, ah oui, là, oui, oh, il en reste encore, hein. C'est le petit, là. Mais enfin, lui, il compte pas, quoi. Il garde les moutons. Le petit. Le dernier. Le petit dernier que ses grands frères regardaient de haut quand plus tard il venait dans le camp de l'armée pour leur apporter du fromage. Le petit dernier. Et le petit dernier, il était devenu un grand héros, à la stupeur générale. C'est lui qui avait terrassé le monsieur muscle, qui terrorisait par contre toute l'armée. Plus que ça, le fils du roi, lui-même, Jonathan, l'avait choisi pour ami. L'amitié, c'est un cadeau, ça se choisit pas. C'est le fils du roi qui l'avait aimé, qui lui avait même confié son manteau, confié son épée, son arc, sa ceinture, et c'était pas des choses qu'on confie à tout le monde. Et puis, c'est lui qui avait commandé l'armée, et c'est lui qui revenait toujours, toujours vainqueur. Il doit y avoir un chant comme ça, toujours vainqueur, non ? Je sais pas, j'en sais rien. Plus que ça, le roi lui-même lui avait donné sa fille, Michal, qui était tombée amoureuse de lui. Donc, tout lui réussissait à ce berger. Tout le monde, tout le peuple chantait ses louanges. Et donc, en l'espace de quelques mois, il était passé là de poussière, là, insignifiant, à général de l'armée, familier du roi. Donc, quel succès pour cet homme que le prophète, en secret, avait désigné comme le nouveau roi. Et là aussi, il y avait un basculement radical. Mais c'est précisément ce succès que le roi en titre, Saül, tourmenté par le mauvais esprit, malade de jalousie, ce succès le rend fou, et tout ce qu'il a en tête maintenant, c'est de supprimer David. Et c'est pourquoi pour David, c'est dans ce mouvement de crescendo que David se retrouve pourchassé, et donc tout bascule à nouveau dans l'autre sens. Il est menacé de toutes parts et rien, apparemment, ne peut le protéger de la rage du roi, ni l'amour de sa femme Michal, qui lui a permis tout juste d'échapper à l'arrestation, ni l'amitié du fils du roi, Jonathan, qui plaide auprès de son père sa cause, et son père ne veut rien entendre, et même dans sa propre tribu, il n'est plus en sécurité. Je suis entouré de lions, couché au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. David fuit, David se cache. David est entouré en plus d'aventuriers qui ne sont pas vraiment recommandables, et plusieurs fois Saül a failli l'attraper. Et on se demande, et il a dû se demander, mais comment tout ça va finir? Et on se demande, et il a dû se demander, mais on se le demande, et on peut se le demander aussi parfois pour nous, mais pourquoi le roi élu par Dieu? Pourquoi le roi élu par Dieu doit-il tant subir de la part du roi qui est déchu, qui est en titre, mais qui est déchu? Pourquoi le juste est-il persécuté comme ça? Pourquoi? Pourquoi le roi élu doit-il tant subir? Dans la Bible, la question reste sans réponse. Et nous l'entendons en même temps nous dire, mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Quand la Bible ne donne pas de réponse, ce n'est probablement pas pour rien. Parce que dans notre histoire aussi, dans la vie de notre monde, de notre pays, de notre région, et dans notre histoire à nous, dans notre vie individuelle, nous sommes aussi, au moins à certains moments, habités de questions qui n'ont pas de réponse. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Celui qui dit ça n'est pas quelqu'un qui a réussi à se soustraire pleinement au malheur qui l'accable, au danger qui le menace. Même si nous le lisons, donc il y a eu pour lui un signe positif, et c'est peut-être l'épisode de la caverne précisément où il a vu le roi Saül qui était à sa disposition, je l'ai commenté la semaine dernière, donc en tout cas peu importe, 1 Samuel 24 si vous voulez le lire à la maison. Même s'il y a eu cette délivrance, David est encore très très loin de la royauté qui lui a été promise. David n'est pas non plus, on le voit dans le psaume, quelqu'un qui serait un petit peu un adepte du détachement de soi, en disant, ben voilà, là, la méditation, là, le lâcher prise, zen, tout va bien, tout est bon, on respire. Ça ne va pas bien. On parle de lion, à l'époque, c'était pas ceux qu'on regardait à travers les grilles. Hein. On parle de crocs, on parle de flèches, on parle de pièges. On lit, ils sont tombés dans le piège, mais l'appel du début reste d'actualité. Ô Dieu, manifeste ta grandeur. Il y en a besoin, j'en ai encore besoin. À vue humaine, David a encore tout un tas de bonnes raisons pour être inquiet. Et on se souvient qu'après la caverne, la poursuite reprend. Et en même temps, on entend cette parole de confiance et on vibre aussi à l'intensité de sa joie. Ça, c'est très frappant dans le texte. Et elle est d'autant plus touchante et elle sonne d'autant plus vraie, je crois, que nous mesurons que dans la vie de David, comme parfois dans la nôtre, rien ne va de soi. Je crois que ni David, ni nous, en tout cas pas nous, en tout cas pas moi, nous n'aimons pas les difficultés, nous n'aimons pas les dangers, nous préférerions tous n'avoir aucun ennui, n'avoir aucun souci, n'avoir pas de masque, par exemple. Et en même temps, échapper à un danger est parfois une expérience si forte, enfin c'est une expérience si forte, qu'aucune vie paisible ne peut être comparée à ça. On mesure quand on a failli mourir, qu'on est passé à deux doigts, et tout d'un coup cette bouffée d'oxygène quand on a failli se noyer, qu'on a sur le rivage, tout d'un coup on mesure que ce qui allait de soi, ça allait pas de soi, et combien on la goûte, et combien on est reconnaissant de pouvoir encore reprendre le souffle. Et c'est là qu'on entend cette expression. Mon cœur est tranquille, mon cœur est posé. La semaine dernière, je crois qu'on voyait à travers le texte de 1 Samuel combien la comparaison des regards que David pouvait avoir sur la situation et le regard que ses compagnons pouvaient avoir sur la situation. Et d'ailleurs, l'un de nous y est revenu spontanément, publiquement, à la fin du culte. Donc, combien les regards pouvaient être différents et combien il n'allait pas de soi de décrypter les événements qui se produisent, que ce soit à titre individuel et collectif. Et par rapport à ça, j'ai pas rebondi la semaine dernière, mais je n'ai pas de recette magique à vous proposer à cet égard. D'ailleurs, je ne sais pas si les recettes magiques seraient bien placées en milieu chrétien. En tout cas, je n'en proposerai pas. Mais ce que je vois, ce que je voudrais dire, et je vais terminer par là, c'est que ce que je vois dans le texte d'aujourd'hui et qui m'aide, ce sont deux choses. La première, c'est que ce psaume, je crois, il illustre qu'on peut vivre dans une intériorité et dans une extériorité qui sont traversées en même temps par l'inquiétude, par l'incertitude et en même temps par une fermeté, par une tranquillité et par le fait d'être posé. J'ai déjà dû citer cette phrase, elle me revient facilement. Je peux trembler sur le roc, mais le roc sur lequel je suis assis, lui, il ne tremble pas. Et la deuxième chose, c'est que au-delà de ce qui tourne à notre avantage ou à notre désavantage, au-delà de nos façons de tenter de décrypter tout ça, comme chrétiens, à la différence de David, nous avons la chance le bonheur de disposer d'une attestation, je dirais, historique et d'une certitude qui sont bien plus solides que tous nos décryptages. Dans l'histoire, il y a 2000 ans, on avait creusé une fosse, je reprends les mots du psaume, on avait creusé une fosse devant les pas du nouveau David pour le détruire en le crucifiant sur le bois. Comme ça, au moins, on serait débarrassé. Et 3 jours plus tard, un dimanche comme aujourd'hui, au matin de Pâques, le tombeau était vide. Et l'apôtre Pierre décrypte ce qui s'est passé quelques jours après en disant, c'est dans l'acte 2, « Voici donc ce que tout le peuple, ce que tout le monde doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié, qui a été crucifié il y a 2000 ans. » Et j'aime bien du coup revenir sur les derniers mots du psaume. En la mort et la résurrection de Jésus, je crois que c'est bien là quelque chose qui correspond à la dernière parole du psaume. Dieu a manifesté sa grandeur au-dessus des cieux et sa gloire sur toute la terre. La gloire de Dieu, en tout cas dans l'évangile de Jean, c'est la croix. Alors j'ai envie de nous dire, pour clore ce culte, éveille-toi mon âme, éveillez-vous, lutte et lyre. Et à la suite de David, si vous le voulez bien, que notre cœur se voit lui aussi tranquille, ferme et posé. Et je nous invite à éveiller notre âme et le luth et la lyre, en tout cas le piano et la guitare et le violon, en chantant ensemble « Mon seul abri », si vous voulez bien. Tu fais escape pour sortir de la chose. Et je vous invite, si vous